Votre rédemption approche. Deuxième partie. Luc chapitre 21, verset 28. Dans la leçon précédente, nous avons étudié la signification du terme « rédemption » en Luc chapitre 21, verset 28. Jésus a dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. » Nous avons vu qu'il y a un aspect de la rédemption qui ne se réalisera que dans le futur. Nous avons été rachetés, certes, mais notre rédemption n'est pas encore complète. C'est pourquoi Jésus affirme dans ce verset que notre rédemption est sur le point de se produire. En ce moment, nous vivons dans une période où la rédemption s'est réalisée, mais pas entièrement. Nous avons la rédemption dans une certaine mesure, mais nous sommes encore dans l'attente de la rédemption dans sa forme finale. Cette tension entre le déjà accompli et l'accomplissement à venir caractérise plusieurs autres aspects du salut. Regardons quelques exemples. Premier exemple. Nous avons déjà été adoptés. C'est ce que dit Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et pourtant, nous sommes toujours dans l'attente de notre adoption. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Deuxième exemple. Le règne de Dieu a déjà commencé. Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et pourtant, Jésus nous demande de prier pour que s'établisse le règne de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Troisième exemple. Les chrétiens sont l'épouse du Christ. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 et 26. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et pourtant, nous serons invités à assister aux noces du Christ à son retour. Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Comme vous le voyez, le salut comporte des dimensions temporelles distinctes. Nous constatons simultanément un aspect déjà accompli et un aspect à venir. Et en attendant que s'accomplisse notre future rédemption, il est intéressant de noter que les Écritures donnent de multiples avertissements aux croyants pour qu'ils restent dans le droit chemin. Regardons Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est un bel exemple. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Remarquez à nouveau que cette phrase s'adresse aux chrétiens. Les croyants ne doivent pas attrister le Saint-Esprit. Le verbe attrister, loupéo, signifie chagriner, offenser, jeté dans la douleur. Ça se produit chaque fois qu'une personne agit de façon contraire aux voies du Saint-Esprit. Concrètement, un croyant attriste le Saint-Esprit quand il se comporte immoralement, quand il permet aux choses impures de prendre place dans sa vie et dans ses pensées. Quelle est l'importance de cet avertissement? Est-il absolument nécessaire d'éviter d'attrister le Saint-Esprit? Nous avons vu la dernière fois que le croyant sera épargné de la colère divine qui déferlera sur la terre à la fin des temps. Romains chapitre 5, verset 9. Donc, logiquement, même s'il faisait l'erreur d'attrister le Saint-Esprit, au bout du compte, cela ne devrait pas altérer son statut spirituel final. Il sera de toute façon sauvé au jour de la rédemption. Il n'aura pas à subir la colère de Dieu. Mais est-ce vraiment ce qui va arriver? Paul écrit en Colossiens chapitre 1, versets 22 et 23. Il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant point l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Christ nous a réconciliés à Dieu, et ce statut va se poursuivre dans le futur. Mais notez bien le texte de Paul. Pourvu que vous demeuriez dans la foi, c'est-à-dire à condition de persévérer dans la foi. Il est important de remarquer l'aspect conditionnel de cette réconciliation. Le chrétien doit constamment marcher dans la foi sans se détourner de son engagement initial envers Dieu. Le salut est fondé sur la foi d'un individu, non pas sur un seul acte de foi, mais sur une profession continue de sa foi. Ceci étant dit, une question se pose. Est-il possible pour un croyant d'abandonner sa foi? Lorsqu'on regarde l'enseignement de Paul dans son ensemble, il n'est pas difficile de constater une certaine insistance sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Son peuple peut assurément compter sur l'appui du Seigneur en toutes circonstances. Prenons quelques exemples. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le Dieu qui nous a appelés à la sainteté nous rendra finalement irréprochables devant lui. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé une œuvre bonne en chacun de nous, et il poursuivra l'achèvement de cette œuvre en l'amenant à la perfection. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 7 et 8. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'abandonnera jamais ses fidèles. Le croyant le plus chancelant sera gardé entre ses mains et sera transformé à la fin pour être semblable à Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu est digne de confiance. Devant la tentation, il nous donnera soit la force pour y résister, soit une issue pour s'en sortir. Maintenant, aussi rassurante que soient ses promesses, elle n'empêche pas nécessairement un disciple de se rebeller contre Dieu et de refuser sa protection. Il faut comprendre que ces promesses ne tiennent pas de la magie. La fidélité de Dieu n'exclut pas qu'un chrétien puisse devenir infidèle. En d'autres mots, la promesse d'une protection divine contre l'iniquité ne signifie pas que la vigilance humaine ne soit plus nécessaire. C'est pourquoi nous retrouvons dans la Bible des avertissements comme celui de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dieu ne nous forcera pas à lui obéir si nous avons fait le choix de la désobéissance. J'aimerais maintenant reprendre le sujet du Saint-Esprit. Dans les Écritures, il est question du Saint-Esprit sous deux aspects. Premièrement, la Bible enseigne que le Saint-Esprit constitue un gage de l'héritage du chrétien. Cette idée est exprimée en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5 et Éphésiens chapitre 1 verset 14. Lisons Éphésiens chapitre 1 verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés pour l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Il est la garantie de ce que nous recevrons. Notez que nous n'avons pas encore pris possession de notre héritage. Pour le moment, en recevant l'Esprit Saint, nous n'avons reçu qu'un acompte. La plus grande partie est à venir. Ainsi, en devenant chrétien, nous commençons à faire l'expérience de Dieu dans nos vies par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est donné comme un gage, comme une garantie, comme un avant-goût de notre salut. Deuxièmement, la Bible enseigne que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous connaissons bien l'utilité d'un sceau. Il peut prendre la forme d'un cachet caoutchouté dont l'empreinte désigne un personnage officiel, un organisme, une compagnie. Le cachet peut aussi être fabriqué en métal. Dans ce cas-ci, l'empreinte est formée non pas par l'encre, mais par une pression forte du sceau sur le papier. Nous avons alors une empreinte en relief. On utilise un sceau pour authentifier un document important, pour montrer qu'un document est véridique. En recevant le Saint-Esprit, vous obtenez le signe spirituel, attestant que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Paul écrit en Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous n'êtes pas un vrai chrétien si vous n'avez pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donc le sceau de Dieu, la marque qui montre, hors de tout doute, que vous lui appartenez. À quoi ressemble cette marque concrètement? La marque de l'Esprit est évidemment le fruit de l'Esprit. Les gens peuvent constater l'authenticité d'un chrétien par une vie morale qui se distingue de l'homme naturel en raison de sa qualité. L'Esprit Saint a transformé cette personne et cela se voit dans son comportement. Son caractère a changé. On remarque une attitude portée vers autrui et marquée par l'amour de Dieu. Si vous chagrinez l'Esprit Saint, est-ce que cela importe? Bien sûr que cela importe, car si par votre conduite vous ne cessez d'attrister le Saint-Esprit, la question de la présence de l'Esprit dans votre vie se posera inévitablement. Pourrait-on dire que sa marque se voit sur vous? Pourrait-on dire que vous êtes un authentique chrétien? Souvenons-nous du mot « gage » au verset 14 de Éphésiens chapitre 1. Il est parfois traduit par le mot « garantie ». On peut en effet faire une analogie avec une garantie que vous posséderiez. Supposons que vous achetez une montre. Cet achat vient avec une garantie de 3 ans du manufacturier contre tout défaut de fabrication. Après une année, votre montre ne fonctionne plus. Vous la retournez au marchand pour qu'elle soit réparée. Il va sans dire que celui-ci exigera une preuve attestant que le contrat garanti est encore valide, en présentant le reçu de votre achat, par exemple. Si vous ne pouvez pas fournir un tel document, il est peu probable que votre montre soit réparée aux frais du manufacturier. L'Esprit Saint est notre garantie. Nous devons prendre soin de la conserver en évitant d'attrister l'Esprit Saint. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans la même situation qu'un individu ayant une montre sous garantie, mais qui ne peut pas fournir la preuve de cette garantie. Nous ne possédons qu'une seule garantie. C'est le Saint-Esprit. Il est la garantie de l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Lorsque Paul écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit », il veut dire « L'Esprit Saint est votre garantie. Ne la perdez pas. Car si vous perdez l'Esprit Saint, vous serez dans la même situation que ceux qui vivent dans la chair. » Ceci soulève une sérieuse question. Est-il possible de perdre le Saint-Esprit? Est-il possible que l'Esprit Saint quitte un croyant? Pour répondre à cette question, nous allons examiner quelques passages bibliques. Vous savez sans doute que l'Ancien Testament contient plusieurs exemples où le Saint-Esprit s'est retiré d'une personne. Regardons quelques cas. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Saül a été le premier roi d'Israël. Il reçut l'onction royale du prophète Samuel. Mais son règne fut un désastre. À plusieurs reprises, il défia ouvertement le Seigneur par sa désobéissance, de sorte que l'Esprit de Dieu s'écarta finalement de lui. Puisque Saül avait abandonné l'Éternel, Dieu retira son esprit de la personne de Saül. À partir de ce moment, c'en était fait de Saül sur le plan spirituel. Telle fut la pathétique fin de ce premier roi d'Israël. La même chose est arrivée à un autre homme, Samson. Samson est un personnage biblique bien connu pour sa force exceptionnelle. Les artistes le représentent souvent comme un homme avec une imposante musculature, un peu comme Héraclès dans la littérature grecque. Samson pouvait mettre à terre un temple en n'utilisant que la force de ses bras. N'ayant qu'une mâchoire d'âne comme arme, il poursuivit les Philistins et en tua 1000. Il faut souligner que la force de Samson n'avait rien d'un naturel. Elle était entièrement surnaturelle, tirant son origine de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu se retira de lui, sa force l'abandonna aussi. Samson n'avait plus de vigueur qu'un autre homme à partir de ce moment. Regardons quelques passages qui le concernent. Notez bien le lien constant entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, et la force qui animait Samson. Juges, chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Juges, chapitre 14, verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Juges, chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cornes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Nous observons dans ces versets que Samson pouvait accomplir des actes avec une force hors du commun chaque fois que l'Esprit de l'Éternel le saisissait. Ainsi, il a pu tuer un lion en le déchirant à main nue. Il a pu éliminer 30 hommes tout d'un coup. Il a pu se défaire des cornes qui attachaient ses poignets. Mais un jour, Samson laissa échapper le secret de sa force à une femme du nom de Dalila. Dalila était enfin une espionne qui agissait pour le compte des Philistins. Avec Samson comme juge en Israël, les Philistins ne parvenaient pas à vaincre Israël. C'est pourquoi ils voulaient se débarrasser de Samson. Mais ce n'était pas possible, car la force de Samson le rendait invincible. Ils ont donc envoyé Dalila pour le presser de dire ce qu'il rendait si fort. Mission accomplie pour Dalila. Elle découvre que la force de Samson était liée au vœu de Nazaréa. Né Nazaréen, Samson ne pouvait pas boire ni vin ni boisson fermentée et il n'avait pas rasé ses cheveux. Ce vœu était l'expression de sa consécration au Seigneur. Tant et aussi longtemps que le vœu était tenu, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait vaincre sa puissance. Mais son vœu pouvait être violé en rasant ses cheveux. Avec une tête dégarnie, il n'était plus nazaréen et ne pouvait plus bénéficier du soutien de Dieu. Et c'est exactement ce qui arriva. Son secret ayant été révélé, son abondante chevelure tomba sous les ciseaux des Philistins. Les Philistins réussirent finalement à capturer cet homme qui ne jouissait plus d'une force extraordinaire, car l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Voilà un autre exemple d'abandon par l'Esprit Saint d'un individu en raison de sa désobéissance. Samson a désobéi au Seigneur. Il viola son vœu en laissant raser sa chevelure. Il savait ce qu'il risquait s'il divulguait son secret à Dalila. Il l'a tout de même fait et en a subi les conséquences. C'était un acte de pure désobéissance. Lisons un autre passage. Celui-ci concerne David. Psaume, chapitre 51, verset 11. « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » David a écrit ces mots alors qu'il était rongé de culpabilité après son adultère avec Bathsheba. En implorant le pardon, il demande à Dieu de ne pas lui retirer son Saint-Esprit. C'est ce qu'il redoutait le plus. Nous voyons donc que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint peut se retirer d'une personne, mais toujours sur la base d'un seul motif, en raison d'une grande désobéissance et d'une attitude entêtée dans cette désobéissance. Ce principe demeure valide dans le Nouveau Testament. Regardons ce verset dans le livre des Actes. Actes, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le verbe « obéir » est conjugué au participe présent. Il s'agit d'une action qui dure dans le temps. Cela signifie que Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent continuellement, qui vivent une attitude d'obéissance à Dieu. Il n'est pas question d'un acte isolé d'obéissance. Il s'ensuit, si nous inversons ce principe, que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui ne lui obéissent pas. Et cela ouvre la possibilité que Dieu puisse retirer le Saint-Esprit aux disciples qui lui résistent et qui s'obstinent à lui désobéir. En Romains chapitre 6, Paul écrit « Vous étiez autrefois désobéissants, esclaves du péché. Lorsque vous êtes devenus chrétiens par la foi, vous avez donné votre vie à Dieu. Vous avez fait preuve d'obéissance. » Romains chapitre 6, verset 17. En Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul dit « Et maintenant, n'attristez pas le Saint-Esprit en étant à nouveau désobéissant. » Qu'est-ce que Paul avait en tête en faisant cette déclaration? Il avait en tête l'enseignement de l'Ancien Testament. Il veut nous avertir que ce qui arriva aux Israélites dans l'Ancien Testament peut se reproduire avec les chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Israélites dans l'Ancien Testament? Psaume chapitre 78, verset 40. Remarquez bien le mot « attristé » dans cette phrase. « Que de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'attristèrent sur la terre aride. » Que de fois ils attristèrent Dieu en s'opposant à lui. C'est exactement ce que Paul demande aux chrétiens de ne pas faire. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est malheureusement ce que les Israélites de l'Ancien Testament ont fait. Et en conséquence, ils tombèrent dans le désert. Ils périrent. L'apôtre Paul précise en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que les malheurs d'Israël ont été rapportés dans l'Ancien Testament pour nous servir d'avertissement. Faites attention, dit Paul. La punition qui a frappé Israël peut vous frapper de la même manière. Lorsque les Israélites attristèrent le Seigneur dans le désert, ils moururent. Lorsqu'un chrétien attriste sans cesse le Saint-Esprit, il va périr. J'aimerais conclure avec le commentaire suivant. À plusieurs endroits, la Bible assure le croyant de son salut. Dieu a appelé ses élus à grandir à l'image de son Fils et à participer à sa gloire. Aucune puissance dans l'univers ne peut contrecarrer ce plan divin. Dieu va le mener jusqu'à la fin. Mais à plusieurs autres endroits, la Bible adresse aux croyants des exhortations laissant entendre qu'ils ont une part de responsabilité dans leur salut. Et c'est surtout de cela que nous avons discuté en étudiant cette exhortation de Paul à ne pas attrister l'Esprit Saint. Il est de la responsabilité du chrétien de ne pas attrister l'Esprit Saint. Il est logique de penser que l'existence d'un tel verset montre la possibilité qu'un croyant puisse se détourner de sa foi. La grâce de Dieu n'opère pas de façon mécanique, indépendamment de la volonté humaine. Elle coopère toujours avec les hommes, même au risque d'être stoppée. La rédemption, dans sa plénitude, se réalisera dans le futur. Dieu a donné dès maintenant à ceux qui lui ont fait confiance le fruit de l'Esprit Saint, le sceau de l'Esprit Saint. Nous voulons tout faire pour conserver cette garantie. Nous voulons permettre à l'Esprit Saint de rester dans nos vies en lui obéissant chaque jour. Les croyants qui s'engagent ainsi à coopérer avec la grâce de Dieu peuvent vivre dans l'assurance que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Il peut se réjouir dès aujourd'hui de sa rédemption prochaine.